Après les trois concerts donnés ce vendredi et samedi à la Cité de la Voix de Vézelay, concert de reprise en présentiel, pour employer un mot à la mode, alors ça s'est passé où ça se passe? À la Cité de la Voix dans la Grande Salle ou dans les Jardins, et puis à Sainte-Marie-Madeleine ce samedi à 20h30. Quatrième concert, mais en ligne cette fois, avec un enregistrement qui a été effectué le 24 août dernier dans la basilique de Vézelay. Les variations Goldberg de Bach au programme, et devant les claviers du clavecin, c'est vous, enfin c'était vous, Paolo Zenzu. Quel souvenir gardez-vous de ce moment de musique, de cet enregistrement?
Mais c'était un moment très émouvant parce que l'endroit, le narthex de la basilique de Vézelay est extraordinaire, puis évidemment très connu déjà en rapport à la musique à cause de l'enregistrement des suites pour violoncelle de Bach enregistrées par Rostropovitch, et puis aussi le plaisir et le privilège d'être dans cet endroit qui a été en restauration comme la façade, donc un peu de l'inaugurer après sa restauration. Oui, you know, le plaisir de jouer cette œuvre merveilleuse captée par l'équipe de Zingo pour la Cité de la Voix.
Petite précision de vocabulaire tout de même, on ne sait pas tous ce qu'est le narthex, on connaît la nef, les transepts, le déambulatoire, le chœur évidemment. Alors le narthex dans un monument tel que celui-là, c'est une partie qui n'existe pas partout d'ailleurs.
Tout à fait, oui, c'est le vestibule d'entrée en fait qui est présent dans l'architecture romane que peu d'églises encore ont gardé parce que souvent il a été détruit ou bien restructuré de façon à en altérer la structure. Et celui de Vézelay a été probablement au début ouvert en partie sur l'extérieur et après un travaux, parce que bon, la basilique a subi de nombreux travaux au travers les siècles, il a été fermé, mais il est gardé avec un tympan, avec des bas-reliefs extraordinaires. Donc oui, c'est un endroit magique, on peut dire.
Que sont pour un musicien tel que vous les variations Goldberg? C'est quoi? C'est un monument? C'est une suite d'exercices? C'est une montagne tellement difficile à gravir qu'on n'en voit jamais le haut? C'est quoi?
C'est un monument dont on peut en fait dire énormément de choses, déjà sur son origine, sa composition. Et puis, l'acte de le jouer, d'interpréter, fait partie en effet de ces moments importants pour, je pense, n'importe quel claviériste, parce qu'on peut jouer au piano, évidemment. Il y en a même qui le jouent à l'orgue, bien que ce soit originairement écrit pour clavecin. C'est aussi une œuvre extrêmement sereine, où il y a un très grand panel d'affects et d'émotions qui sont traduites par la musique. Mais je ne le verrais pas comme quelque chose de fatigant, comme quelque chose de dur, parce que encore une fois, c'est une musique plutôt sereine en fait, où ces 30 variations sur l'air qui débutent et qui terminent l'œuvre sont autant de déclinaisons de ce caractère quand même initial qui est plutôt paisible, qui est plutôt serein. Donc aussi trouver ce plaisir dans le jeu.
Œuvre écrite initialement pour clavecin. Alors, vous l'avez dit, il y a eu des interprétations piano. Alors, il y a une interprétation monumentale de Glenn Gould, mais d'autres, Alexandre Tarot, ou très récemment, on parle beaucoup de la version langlois. Puis, il y a le clavecin. Alors, quelques noms pour clavecin. Il y aurait qui? Il y aurait Blandine Verlet, il y a...
Gustave Leonhardt, évidemment.
Tom Koopman.
Pierre Antaille, Christophe Rousset.
Alors, Christophe Rousset, que vous avez particulièrement connu, puisqu'il a fait partie de vos maîtres.
Oui, tout à fait.
Quand on joue ces variations Goldberg au piano, qu'est-ce qui fait qu'on choisit cette version-là? Et est-ce que d'une manière, on trahit pas un peu le compositeur?
Non, je pense qu'on ne trahit jamais le compositeur. Puis, je veux dire, aujourd'hui, le piano est l'instrument à clavier dominant, plus répandu. Donc, la musique de Bach peut se jouer même sur un marimba. Donc, moi, je ne vois vraiment... Non seulement je ne vois aucun inconvénient au fait de jouer sur le piano, mais ça peut être aussi magnifique. Donc, après, moi, mon instrument, c'est clavecin, donc je joue sur le clavecin, avec en plus la chance que ce soit une œuvre conçu pour cet instrument. Donc disons que il n'y a pas de travail d'adaptation à faire, alors que bon, au piano, il y a toujours un travail d'adaptation à faire. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on entend des versions extrêmement différentes d'un pianiste à l'autre, on dirait d'un claveciniste à l'autre aussi.
Est-ce que la différence essentielle n'est pas que justement les deux familles d'instruments, un piano d'un côté et clavecin de l'autre, s'il faut les séparer, ont des modes d'expression différentes, des modes de nuances différentes, ou de timbres.
Mais d'ailleurs, cette richesse dynamique du piano, c'est-à-dire la possibilité de faire des crescendo, encore que pas comme avec un violon ou avec la voix, parce que c'est un instrument à clavier à percussion, c'est à cordes percutées. Mais disons, cette gamme de dynamique plus riche que dans le clavecin, parfois, ça peut être un obstacle aussi, parce que dans des morceaux contrapuntiques que Bach écrit soit pour le clavecin, soit pour l'orgue, instruments, les deux, qui ne peuvent pas faire de crescendo, où on ne peut pas faire entendre tout d'un coup une entrée de sujet plus forte que les autres voix, bah, c'est que cette musique est conçue comme ça. Donc parfois au piano, bah, on se sent obligé soit de mettre en valeur une entrée de sujet, soit au contraire de jouer comme si on avait un clavecin sous les mains. Mais dans les deux cas, moi je trouve que ça sonne artificiel parfois. Donc le pianiste qui joue Bach au piano, pour moi, a encore plus de travail à faire pour trouver une justesse dans son interprétation.
Revenons au clavecin. Vous avez la chance de jouer pour cet enregistrement à voir donc ce dimanche soir. Vous avez la chance de retrouver un instrument que vous connaissez bien pour avoir enregistré dessus votre dernier disque, toujours Bach, mais cette fois les suites anglaises.
Oui, tout à fait. C'est une copie d'un clavecin allemand de 1730, réalisé par Anthony Seidy et Frédéric Ball à Paris dans les années 90. Un instrument à deux claviers, un instrument extraordinaire, oui.
Instrument à deux claviers, la précision est importante car parfois les mains se croisent.
Oui, et que Bach écrit bien dans le frontispice des variations Goldberg que c'est une œuvre conçue, écrite pour un clavecin à deux claviers, parce qu'en effet, les mains se croisent même assez souvent.
Qu'est-ce qu'on sait de l'histoire de ces variations Goldberg écrites vers 1740, donc dans les 10 dernières années de la vie de Bach?
Oui, on connaît beaucoup de légendes, en fait, comme quoi il les aurait écrites pour un élève qui devait faire endormir son seigneur. D'autres imaginent plutôt qu'il les aurait écrites pour son fils qui devait obtenir un poste de maître de chapelle. Et comme c'est une œuvre aussi virtuose, très virtuose même par moments, c'était une façon aussi pour que son fils, Wilhelm Friedemann Bach, montre ses talents d'interprète et de virtuose. Il y a encore d'autres hypothèses, mais aucune ne se base sur des faits très concrets, en réalité.
Est-ce qu'il y a une explication au fait que ces variations Goldberg et le statut qu'elles ont, si je peux dire, on les craint, on les admire, etc. Et ça se retrouve, alors évidemment en musique, mais ça se retrouve même en littérature ou dans le monde du cinéma ou en art, évidemment.
Oui, bien sûr, ben, on peut les voir comme un voyage initiatique. Il y a des colonnes structurelles qui sont les canons qui se retrouvent chaque trois variations. Il y a des constantes qui peuvent apparenter l'œuvre, par exemple, à la Divine Comédie de Dante ou au-delà de la beauté des vers et du contenu, il y a aussi comme ça des structures formelles et rythmiques, voire arithmétiques d'une précision qui laisse bouche bée. Oui. Bien sûr, ou Léonard aussi, c'est Bach évidemment, à cause du personnage qu'il était, fait penser à ces gens-là, à Léonard ou Dante, c'est-à-dire des gens dont l'intelligence, la sensibilité, les capacités nous dépassent de très 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 loin.
Et on peut considérer qu'elles sont un aboutissement dans l'œuvre de Bach lui-même?
Oui, bien sûr, comme c'est un aboutissement, l'art de la fugue, mais sous un autre angle, parce que évidemment, comme son nom l'indique, variation, l'œuvre en fait se veut comme un panel de déclinaisons en fait de l'art, de l'écriture, de la composition, du jeu. Bach donne montre un peu toutes ses capacités de compositeur et aussi d'interprète, évidemment. Les variations Goldberg, on est dans la vie, on est dans le jeu, on est dans la couleur.
Donc ce dimanche soir, alors plusieurs points d'écoute, si on peut dire, des pages Facebook, la Cité de la Voix, évidemment, la page Facebook de Total Baroque, celle de France 3 Franche-Comté, et puis bien sûr, BFC Classique.